Info matin, Nicolas Legrand.
Le début du cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, les trois premiers otages ont été libérés. Le point complet dès le début du journal. Donald Trump de retour à la Maison-Blanche. La cérémonie d'investiture aura lieu la nuit prochaine pour nous à Washington. Après avoir prêté serment, il va devenir le 47e président des États-Unis. L'actualité sur le territoire et le 18e gouvernement entrera pleinement en fonction aujourd'hui. Les 11 membres sont convoqués pour la répartition des secteurs. Le sport et un match nul dans la lutte pour le maintien entre Saint-Étienne et les Nantais d'Antoine Comboiré. Un but partout pour la 18e journée de Ligue 1. Dernière rencontre ce matin entre Marseille et Strasbourg à partir de 6h45. La météo, des nuages se développent sur le relief et des orages se déclenchent, touchant plutôt la côte est et la pointe sud aujourd'hui. Les températures maximales perdent 1 à 2 degrés mais restent encore supérieures au normal. Elles s'échelonnent de 27 à 31 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité à l'étranger.
Oui, trois otages libérés après 15 mois de captivité aux mains du Hamas. Trois jeunes femmes qui avaient été faites prisonnières lors de l'attaque du 7 octobre 2023. C'est la première libération qui intervient dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Elles ont d'abord rejoint un hôpital pour un examen complet et elles seraient globalement en bonne santé, même si elles ont été pour deux d'entre elles blessées durant l'attaque du 7 octobre ou une fois capturées. Elles ont pu ensuite rejoindre leur famille. Les armes se sont tues avec trois heures de retard dans la mise en place de ce cessez-le-feu qui reste malgré tout fragile. Le récit de la journée avec Maxime Gondelot pour Europe 1.
Oui, exactement, un retard causé par le Hamas qui a déclaré faire face à des difficultés sur le terrain pour transmettre la liste des trois otages. Alors, des frappes israéliennes ont été menées dans le même temps dans le nord de la bande de Gaza. Soulagement, la trêve est finalement confirmée. Les armes se taisent, vous l'avez dit, et les choses s'accélèrent. Des milliers de Palestiniens se sont mis en marche vers le nord pour reprendre le territoire occupé par l'armée israélienne. Dans le même temps, des camions de ravitaillement entrent dans la bande de Gaza. Dans cette vidéo, on voit des dizaines et dizaines de camions rentrer par le sud de Gaza. D'après les autorités égyptiennes, 260 camions d'aide et 16 de carburant sont entrés par les passages de Kiren Shalom et de Nizana. C'est un peu après 16 heures que l'échange entre otages israéliens et prisonniers palestiniens commence. Les trois otages israéliennes sont partis du quartier d'Al Rimal, dans l'ouest de Gaza, et ont été récupérés par la Croix-Rouge. Habillés en noir, bandeaux verts sur la tête et armes à la main, des dizaines de terroristes du Hamas les ont escortés tout en contenant une foule importante autour des véhicules. Une fois arrivés en Israël, un hélicoptère de l'armée les a récupérés et emmenés dans un hôpital de Tel Aviv. Une bulle sanitaire a immédiatement été instaurée. Un soulagement pour les familles des victimes, des otages réunis sur place. Concernant les prisonniers palestiniens, eux, des cars sont entrés dans la prison d'Ofer, près de Ramallah, vers 17h. 90 d'entre eux doivent être transportés vers Gaza. Le prochain échange aura lieu quant à lui samedi prochain, selon un dirigeant du Hamas resté anonyme, sans préciser là aussi l'identité des personnes concernées.
Alors on en sait un petit peu plus évidemment ce matin sur le profil des trois otages libérés. Frédéric Simon pour Europe 1.
Émilie Damari, tout d'abord, elle a 28 ans. C'est une ressortissante israélo-britannique, habitante du kibbutz de Kfar Aza. Elle avait été blessée le 7 octobre 2023. Elle avait perdu deux doigts à l'une de ses mains. Son petit ami Gary Berman est encore détenu dans la bande de Gaza. Doron Steinbacher, elle aussi résidait au kibbutz de Kfar Aza, d'où elle avait été kidnappée le 7 octobre. Âgée de 31 ans, Doron travaillait comme aide vétérinaire. Et puis Romy Gonen, elle est âgée de 24 ans. Elle est originaire d'une localité du nord d'Israël. C'est au festival de musique Nova qu'elle avait été capturée par les terroristes du Hamas. Sa mère, Merav, est l'un des visages les plus connus de la mobilisation en faveur des otages. Tout au long de ces 15 mois, Merav Gonen avait multiplié les interventions dans les médias avec une dignité et une combativité qui avait suscité l'admiration des Israéliens.
Et ces trois premières libérations ont évidemment été accueillies avec beaucoup de soulagement à Tel Aviv, comme sur la place des otages. Écoutez.
Beaucoup d'émotions, on est soulagés, en même temps on a peur, on veut pas y croire, mais voilà, beaucoup de soulagement, beaucoup de joie, honnêtement on n'y croyait plus trop. Trop d'émotions pour l'instant pour fêter encore ça, mais je pense dans quelques heures, voilà, de voir les premiers otages revenir, ça beaucoup. Enfin voilà, je perds les mots tellement, enfin voilà, j'ai frisson rien que d'y penser et ça paraît encore irréel honnêtement.
C'est un immense soulagement. pour le peuple israélien, je suis ému moi-même, qu'on se dit aussi que c'est peut-être la fin de cette partie de la guerre qui a été tellement terrible. Et voilà, j'espère qu'avec le retour des otages, maintenant, on se projette vers l'avenir, on pense à autre chose.
Réaction également du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui déclare qu'elles reviennent de l'enfer.
Je demande un salut dédié à Romy, Doron, Emily. Une nation entière vous accueille. Bienvenue chez vous. Je sais, nous le savons tous, vous revenez de l'enfer, des ténèbres vers la lumière, de l'esclavage à la liberté. Et ce moment a été possible grâce au sacrifice et à la lutte de nos héroïques combattants.
Le Premier ministre britannique parle de son côté d'une nouvelle fantastique après des mois de supplice. Le chancelier allemand se félicite également de cette libération. Olaf Scholz qui prône dans le même temps la création d'un État palestinien. Toujours pas de communication en revanche de la part de l'Élysée. On sait toutefois que le président de la République, Emmanuel Macron, s'est entretenu par téléphone avec les familles des deux Français toujours retenus en otage dans la bande de Gaza. Des familles partagées entre joie et angoisse.
C'est une joie, mais une joie tellement teintée d'amertume, tant qu'il ne sera pas en Israël. Vous vous rendez compte que là, on va peut-être attendre 9 semaines en récupérant peut-être un mort qu'il va nous falloir enterrer et qu'on va devoir vivre pendant 9 semaines avec cette pensée-là. On ne veut pas croire ça. On veut être persuadé qu'il va sortir vivant. Mais au fond de nous, on sait très bien qu'il y a ce risque. Quel accord abominable. Malheureusement, il n'y avait pas d'alternative. C'est infâme. Et le Hamas est spécialiste de ce genre de choses. Ce n'est pas un bon accord, c'est une certitude. Mais il vaut mieux un mauvais accord que pas d'accord du tout.
Et les familles françaises n'ont donc pas de date concernant la libération de leurs proches. Je rappelle que de son côté, Tel Aviv doit libérer 737 prisonniers. Il est 6h38, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité à l'étranger, notamment avec cette cérémonie d'investiture qui se profile à Washington pour Donald Trump.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Chez Nissan, l'aventure continue. Notre showroom étant en travaux, nous vous invitons dans le nouveau showroom Mitsubishi sur le site Sidaps à Ducos. Vous y découvrirez nos derniers modèles et nos commerciaux dans un espace moderne et convivial. On vous attend sur le site Sidaps à Ducos et à très bientôt pour l'ouverture officielle de notre nouveau showroom Nissan.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Aux États-Unis à présent, Donald Trump va retrouver le bureau ovale. 4 ans après avoir quitté la Maison-Blanche, il sera officiellement investi 47e président des États-Unis à Washington. Il prêtera serment la nuit prochaine à l'intérieur même du Capitole pour cause de grand froid dans la région. Mais avant cela, il donne déjà un meeting devant ses supporters qui ont fait le déplacement. Wilfried de Villers est l'envoyé spécial d'Europe 1 aux États-Unis.
Je suis avec des centaines, des milliers même de personnes qui attendent de pouvoir rentrer à l'intérieur de l'aréna ici en plein centre de Washington. Une très longue file s'étire donc sur plusieurs blocs. Suzy et ses amis sont là depuis plusieurs heures déjà.
On est là depuis 7 heures du matin. On est tous là pour montrer que oui, nous sommes la majorité aux États-Unis et qu'on a voté pour Donald Trump. Et que cette fois, il est enfin de retour à la Maison-Blanche.
Dans la foule, il y a des personnes qui scandent le nom de Donald Trump. Drapeau américain sur les épaules et grand chapeau de cow-boy sur la tête. Ronald est impatient de voir Donald Trump monter sur scène. Il a fait le déplacement depuis le Mississippi, dans le sud du pays.
Pour moi, c'est l'événement le plus historique auquel je vais assister de ma vie. On est là pour soutenir le président Trump et tout ce pour quoi il se bat. C'est un président et un homme proche du peuple américain. Il veut faire prospérer ce pays et le rendre plus sûr.
Alors, on ne connaît pas le programme précis de ce meeting, mais il y aura un grand concert avec, entre autres, les Village People. Quant à Donald Trump, attendu ici à Washington, il était ce matin au cimetière d'Arlington pour participer à une cérémonie. Il a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Et après ce meeting, cet après-midi, il sera ce soir à un dîner dans un musée de la capitale.
Et plusieurs personnalités politiques de droite feront le déplacement pour cette cérémonie d'investiture, notamment des députés européens du Rassemblement national. On signalera également la présence d'Éric Zemmour et de sa conjointe et eurodéputée Sarah Knafo. Marion Maréchal Le Pen pourrait y assister également. En revanche, le président de la République, Emmanuel Macron, ne fera pas le déplacement.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche est-il, selon vous, une bonne chose? Si vous considérez que c'est une bonne chose, alors vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Et j'ajoute que nous reparlerons de l'investiture du président américain Donald Trump à 7h30. Puisque c'est Gaël Lagadec, maître de conférence en sciences économiques et spécialiste des États-Unis, qui sera tout à l'heure notre invité du matin. L'actualité en bref en métropole, actualité politique et cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Pour lui, le Parti socialiste n'est plus un partenaire de la France insoumise, seulement un allié de circonstance. Réaction après la décision du PS de ne pas voter la motion de censure de LFI contre le gouvernement de François Bayrou. Pour Jean-Luc Mélenchon, les tractations entre le PS et Matignon sont, je cite, « des combines pourries ». Il est 6h42, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une nouvelle pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sur le territoire et notamment la convocation des 11 membres du 18e gouvernement pour la répartition des secteurs.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
Bonne année à tous de la part de Magie. Que cette nouvelle année soit remplie de saveurs délicieuses et d'expériences culinaires inoubliables.
Chez Magie, nous vous accompagnons tout au long de l'année avec nos produits savoureux et inspirants. Magie, cuisiner, ça change la vie.
Entreprise de Nouvelle-Calédonie, Malakoff Humanise vous informe. À compter du 6 janvier 2025, le régime Agir Carco ouvre la plateforme déclarative DéclareZen. Vous pourrez effectuer vos déclarations de salaire 2024 par la saisie de formulaire ou par dépôt de fichier. La date limite de déclaration est fixée au 31 janvier 2025. Pensez-y, sans votre déclaration, les droits de vos salariés ne pourront pas être calculés. Pour plus d'informations, contactez-nous au 27 99 12.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Matin, on retrouve Nicolas Legrand.
Et l'actualité institutionnelle aujourd'hui avec une nouvelle étape à venir pour la mise en place du 18e gouvernement. C'est en effet aujourd'hui que ses membres doivent se retrouver pour l'attribution des secteurs, Michael Juneski.
Oui, on rappelle que le gouvernement est entré en fonction mercredi dernier, même s'il n'a pas de vice-président. Alcide Ponga avait été élu président de ce nouvel exécutif pour succéder à Louis Mapou le 8 janvier dernier. On rappelle aussi que le gouvernement compte 11 membres, qui sont donc Alcide Ponga ainsi qu'Isabelle Chamorro, Christopher Gigès et Thierry Santa pour le Rassemblement Les Loyalistes, Gilbert Thuénon, Michael Forest et Samuel Népéoun pour l'UC-FLNKS et Nationalistes, Adolphe Digoué et Claude Gambet pour l'UNI et enfin Jérémy Katidjo-Monnier et Petelo Sao pour Calédonie Ensemble et l'Éveil Océanien. L'attribution de secteurs a déjà été discutée entre les membres du nouveau gouvernement et leurs états-majors. Elle ne devrait donc pas poser de problème majeur. Une fois les secteurs attribués, on pourra considérer que le 18e gouvernement est un gouvernement de plein exercice.
Et de la semaine qui commence, on retiendra plusieurs rendez-vous au chapitre politique. C'est vendredi prochain que doit débuter le 25e congrès du FLNKS. Il est prévu à Saint-Louis au Mont d'Or et une assemblée générale du Palika est également prévue samedi. Ça se passe du côté de Wailou. Mais d'autres rendez-vous sont à noter à l'agenda, Michael Juneski.
Mardi à 9h, le Conseil économique, social et environnemental tiendra une séance plénière avec à l'ordre du jour l'examen de la proposition de délibération relative au chômage partiel spécifique lié aux exactions de 2024. Il poursuivra ses travaux mercredi avec cette fois l'examen et l'approbation de l'avant-projet de loi du pays concernant la modification de la partie législative du Code du commerce applicable en Calédonie. Mardi, le 21 janvier, l'Association des marins et marins anciens combattants organisera une cérémonie pour le 43e anniversaire du crash du DC-4 à Païta, dans lequel les 7 membres de l'équipage avaient perdu la vie. Jeudi, une réunion de pré-rentrée se déroulera à l'intention des étudiants à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Enfin, au chapitre culturel, une visite guidée du site historique de l'île Nau est prévue samedi prochain de 9h à 11h.
Et comme prévu dans le nouvel arrêté du Haut-Commissariat, les conditions de vente d'alcool sont une nouvelle fois assouplies. À compter d'aujourd'hui, en effet, la vente de boissons de moins de 10 degrés, comme la bière ou le cidre par exemple, ne sont plus limitées. Seule la vente de boissons de plus de 22 degrés d'alcool reste soumise à restriction. Elle reste limitée à 1 litre par jour et par personne. L'évolution de ces mesures restera effective au moins jusqu'au 3 février inclus. Dans le reste de l'actualité ce matin, la promotion de la Légion d'honneur du 1er janvier 2025, puisque la liste est parue hier. Dans le décret officiel signé par le président de la République, Emmanuel Macron, on compte plusieurs personnalités calédoniennes ou occupant des fonctions sur le territoire, Michael.
On retiendra, entre autres, parmi les très nombreuses nominations à l'échelle nationale dans cette traditionnelle promotion civile de la Légion d'honneur du 1er janvier, que sont élevés au grade de chevalier Jean-Paul Lextret, le directeur de service de l'Office national des combattants et victimes de guerre. Une récompense collective pour les 52 années passées au service de la France, nous a-t-il dit.
C'est une bonne surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Pour moi, c'est le résultat de 52 ans au service de la France. Mon premier engagement au sein des forces armées, ça a été en 1972. Cette décoration, pour moi, ce n'est pas l'aboutissement, puisqu'en fait, il n'y a jamais d'aboutissement. C'est une belle récompense, mais tout ce que j'ai fait au cours de ma vie, je n'aurais pas pu le faire si je n'avais pas été très bien secondé, si je n'avais pas eu des collaborateurs, si je n'avais pas eu des adjoints, si je n'avais pas eu des gens qui ont travaillé dans la même optique que moi. L'individu n'est jamais seul.
Parmi les nouveaux chevaliers de la Légion d'honneur, on retrouve aussi Didier Vindatiche, l'actuel vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie. On citera encore, concernant le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Virginie Debarnier, professeure en sciences de gestion à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et directrice de l'Institut d'administration des entreprises, également élevée au grade de chevalier, mais aussi Isabelle Amiot, inspectrice d'Académie de l'Éducation nationale en Calédonie. Également dans cette promotion du 1er janvier, Monique Rivière, qui est présidente de l'Association de protection civile de Nouvelle-Calédonie, avec 31 années de service. On retrouve aussi, concernant le ministère de l'Économie et des Finances, David Guyenne, l'actuel président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, a une pensée pour les chefs d'entreprise du territoire.
Beaucoup de fierté, beaucoup d'humilité. Ça m'a fait surtout réfléchir à toute l'année qui s'est écoulée et me permettre en fait, de me rappeler que l'ensemble des chefs d'entreprise ont beaucoup souffert et ont montré une résilience extraordinaire. C'est une reconnaissance collective pour les chefs d'entreprise, pour les équipes de la CCI. C'est une responsabilité, c'est vraiment de se dire que le travail a été reconnu, mais c'est aussi peut-être un encouragement à aller encore plus loin, parce que la situation n'est pas réglée pour l'économie en général. Et donc continuer de tout donner pour que les entreprises soient au cœur de la reconstruction.
Nous citerons encore David Litvan, l'ancien directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie avec 35 ans de service, mais aussi Fabienne Vachon, directrice de la trésorerie de la province Nord, 44 années de service. Je rappelle que la procédure d'attribution de cette plus haute décoration nationale se fait en plusieurs étapes. Après examen des propositions ministérielles par le Conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur, présidé par le grand chancelier, le grade de commandeur et les dignités de grand officier et grand croix, ainsi que les attributions à titre exceptionnel, doivent être présentées en Conseil des ministres. L'ensemble de la promotion est ensuite soumise au président de la République, grand maître de la Légion d'honneur, à qui revient la décision finale d'attribution officialisée par ce décret publié donc au journal officiel.
Et il y a eu aussi la promotion du 15 janvier de l'Ordre national du mérite. Et là aussi, on retrouve des Calédoniens ou des personnes en poste sur le territoire. Trois personnalités sont nommées officiers. Jules Maloko, le commissaire délégué de la République pour la province des îles. Claude Perry, qui est directrice de recherche à l'IRD, elle travaille sur la flore marine, et Odile Magnon, présidente du Cercle des musées de la ville de Nouméa. On retrouve également deux femmes nommées chevaliers, Anne-Gabrielle Guébélil, commissaire de police et directrice adjointe de la police nationale, et Josiane Caemo, qui est gérante de Wedge Tour, opérateur touristique à Lifou. L'actualité religieuse enfin avec l'île de Marais où la 20e édition du Rassemblement des jeunes chrétiens de la Nouvelle-Calédonie a refermé ses portes hier. De nombreuses activités ont été proposées à plus de 300 jeunes catholiques venant des trois provinces. Le bilan avec Clément Yengo, responsable des jeunes de la paroisse de Nengoné.
C'est un bilan très positif, tout s'est bien passé. Ça a été une semaine très mouvementée. Il y a eu plein de partages, plein de chants, de sourires, de rires, de pleurs. Beaucoup d'émotions. On a préparé des carrefours de jeunes après l'enseignement des différents diacres, des différents catéchistes. Des enseignements avec le thème qui est celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai ma confiance, écoutez-le. Les jeunes ont pu visiter l'île, ils ont pu voir d'autres paroisses que celle de La Roche et ils ont apprécié la semaine.
Et la 21e édition de ce rassemblement des jeunes chrétiens de la Nouvelle-Calédonie aura lieu l'année prochaine à Canala. Il est 6h51, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive. On parlera notamment de football avec la journée de Ligue 1 qui est en cours, le rugby également avec la suite de la Champions Cup ou encore eh bien, dans le Pacifique, du tennis et l'Open d'Australie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda.
Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Grande nouvelle, Mitsubishi vous accueille dans son nouveau showroom, toujours à la même adresse, sur le site Sidaps à Ducos. Venez tester nos véhicules, bénéficiez de conseils adaptés à vos besoins et profitez d'un espace conçu pour votre confort. Rendez-vous dès aujourd'hui pour vivre l'expérience Mitsubishi sur le site Sidaps à Ducos.
Jusqu'au vendredi 7 février, gagnez un séjour à l'hôtel de Poé ainsi qu'un vol au-dessus du plus beau lagon du monde avec Cap ULM. Vous séjournerez 6 nuits en bungalow tout confort, cuisine équipée, terrasse et jardin privatif offerts par l'hôtel de Poé ainsi que 2 vols offerts par Cap ULM. Pour jouer, c'est facile, envoyez maintenant chance au 40-20. Toute l'année, l'hôtel de Poé vous accueille dans une ambiance conviviale et familiale et Cap ULM vous fait survoler le lagon de Poé et le cœur de Vaud. Toutes les actus sur la page Facebook de l'hôtel. Profitez d'un séjour reposant et sportif à l'hôtel de Poé. Un cadeau d'une valeur de 122 000 francs. Tirage au sort vendredi 7 février à 14h. 371 francs par SMS. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Et à la une ce matin du football avec la 18e journée de Ligue 1, Michael Juneski, le FC Nantes et Saint-Etienne se sont quittés sur un nul.
Un but partout, score final. L'affiche entre ces clubs historiques du foot français était aussi un duel pour le maintien en Ligue 1. En effet, les deux adversaires du jour sont aussi à la lutte en bas de tableau. Nantes reste donc 15e et Saint-Etienne 16e du classement. C'est un bon point de prix pour l'entraîneur de Nantes, Antoine Comboiré.
Dans l'ensemble, c'est bien, on est venu ici... On n'a pas été capable de gagner, mais au moins, on n'a pas perdu le match. Quand on prend un point, voilà, on garde la distance avec nos poursuivants. Bien sûr qu'on aurait préféré gagner, mais même si on avait perdu ce match-là, Saint-Etienne n'est pas pour autant maintenu. Et puis nous, on n'est pas pour autant enterré. Quoi. Personne ne lâche. Hein. De toute façon, le championnat, il est long. Il y a encore 16 matchs. Donc, il faut rester calme, voilà, continuer à bosser. Et puis, voilà, aujourd'hui, on a pris un point. Il faut valider ce point pris à l'extérieur avec une grande victoire le week-end prochain face à Lyon. Voilà, l'ennemi juré de Saint-Etienne.
Les autres résultats du jour, encore un nul, cette fois entre Le Havre et Reims, un but partout, et une victoire d'Angers sur Auxerre, 2-0. La dernière rencontre du jour oppose l'Olympique de Marseille à Strasbourg. Le score était toujours de 0-0 après 5 minutes de jeu.
Sur les terrains de rugby, maintenant, on disputait la suite de la Champions Cup.
Et des scores larges en conclusion des phases de poule, notamment pour l'Union Bordeaux-Bègles face aux Sharks de Durban, 66-12 en faveur de l'UBB. L'intenable Damien Penaud a battu le record d'essais dans un match de Champions Cup à cette occasion, avec 6 essais à lui seul. L'Union Bordeaux-Bègle de Yoram Moefana termine donc en tête de la poule A, juste devant Toulouse. Toulouse qui a pourtant infligé une véritable claque aux Anglais de Leicester, avec Rodrigue Nettier et Peato Mauvaka dans ses rangs. 80-12, la réaction du capitaine toulousain Antoine Dupont.
Je pense qu'on se l'est rendu facile, on a fait une super entame, que ce soit dans le sérieux, l'application, la concentration, l'intensité et l'état d'esprit aussi. Je pense qu'on n'a pas fait le pas de trop avec le ballon, on avait envie de se faire jouer, mais on avait envie aussi de s'engager pleinement dans ce match. Je pense que ça s'est vu dès le coup d'envoi. Et puis on a été très pragmatique, on a marqué de suite pas mal d'essais. Et après, on sait très bien que c'est dur pour les équipes quand il y a un écart au score, mais oui, aujourd'hui, le match, il est proche de la perfection.
Une belle performance encore de Castres qui a battu les Saracens sur le score de 32-24. La dernière rencontre du jour opposait Toulon, déjà qualifié pour la suite de l'aventure face au Sale. Et les Toulonnais se sont inclinés 33-7. Par conséquent, les Sale passent devant les Racing Men pour le compte de la poule C. Le Racing 92 qui est donc éliminé de la compétition.
Dans le Pacifique maintenant, du tennis avec l'Open d'Australie. Et il n'y a plus qu'un seul Français en lice en simple.
Oui, à Melbourne. tourne. Dans le tableau, messieurs, Gaël Monfils jouera cet après-midi les huitièmes de finale. Il affrontera l'Américain Ben Shelton, 21e mondial. À 38 ans, le tricolore est au sommet de sa forme. Après avoir sorti le numéro 4 mondial, Taylor Fritz, au tour précédent, il s'imagine bien continuer l'aventure. Hier, Hugo Humbert a tenté de résister avant de s'incliner logiquement contre la tête de série numéro 2 du tournoi, l'Allemand Alexander Zverev. 6-1, 2-6, 6-3, 6-2, une défaite en 4 manches pour le Français. On signalera encore du côté de Melbourne, côté tête d'affiche, la qualification de Novak Djokovic, tombeur du Tchèque Jiří Lehka, ou de Carlos Alcaraz sur abandon du Britannique Jack Draper. Chez les dames, l'Américaine Coco Gauff poursuit l'aventure après avoir battu la Suisse Belinda Bencic. Arina Sabalenka, la Bélarusse, double tenante du titre, s'est aussi qualifiée pour la suite du tournoi aux dépens de la Russe Mira Andreeva. Victoire d'Arina Sabalenka sur le score de 6-1, 6-2.
En Nouvelle-Calédonie maintenant, il y avait de l'haltérophilie et les pratiquants faisaient leur rentrée samedi.
Oui, une vingtaine de participants étaient au rendez-vous pour la première manche du championnat territorial. Toutes catégories et tout âge confondus. Les meilleurs qui misent déjà sur les grandes échéances à venir en 2025. Championnat de France, Océania ou encore mini-jeux du Pacifique. Pour Kevin Liquitine, président de la Ligue, le travail va consister à préparer une sélection.
C'est ça, donc déjà la régularité au niveau des performances et des engagements sur les compétitions. Mais il y a aussi d'autres aspects à prendre en compte pour la qualification qui ont été déjà présentés aux athlètes en amont. Mais la performance est très importante, effectivement, mais il y a aussi l'extra-sportif qui va venir en compte pour la sélection finale. Mon investissement, la discipline, l'implication aux entraînements et puis le respect de la charte.
Côté résultat, Sylvain Duclos a notamment pris la tête du classement général chez les messieurs, tout comme Demi Dabin chez les féminines. Isaac Hardy-Neslin termine meilleur junior et Seta Fainika meilleur junior féminine. La deuxième manche sur les trois de ce championnat territorial est déjà prévue le 9 mars. Ça se passera encore une fois à l'Institut d'haltérophilie du Mont d'Or.
Merci beaucoup Mickaël Jeuneski pour ce point complet sur l'actualité sportive. J'ajoute évidemment que vous retrouverez tous les résultats dans le Mac des Sports ce midi sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Ce sera à suivre après votre journal Infomag présenté à 11h30 par Jean-François Bodin. Et je précise que nous parlerons en particulier d'athlétisme aujourd'hui. Nous recevons en effet le président de la Ligue calédonienne, Paul Poignewa, ainsi que le cadre technique Éric Reuillard pour venir parler eh bien, de ces différentes disciplines en Nouvelle-Calédonie.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les prévisions du temps, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, nous sommes en vigilance jaune avec de fortes pluies et des orages. C'est pour cet après-midi, des averses orageuses se développant sur le relief puis déborderont localement sur la façade est, sur l'ouest, au sud de Beauray et sur la pointe sud et l'île des Pins. Ce matin, le ciel restera chargé en nuages bas, bien que des éclaircies passant par endroits. Les averses seront isolées et généralement faibles, à peine plus marquées sur le nord-est. Le vent pour ce matin orienté nord-est autour des 10 nœuds, franchissant les 10 à 15 nœuds, localement 15 nœuds sur l'ouest en fin de matinée. Cet après-midi, des nuages se développeront sur le relief et des orages se déclencheront. Des averses parfois fortes déborderont localement sur les côtes de la Grande Terre, touchant plutôt la côte est et la pointe sud. Les loyautés conserveront quelques éclaircies de plus faibles précipitations. Le vent à l'ouest-nord-ouest pour cet après-midi se renforce en général entre 15 et 20 nœuds, avec temporairement des accélérations sur le sud-ouest. Sur l'extrême nord, il se rapproche des 10 nœuds. Les températures, elles, comprises entre 27 à 31 degrés.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal.